Alors, depuis que, il y a un mois, nous avons repris le fil de nos revisites de Confucius, nous avons vu quelles ont été les retombées de la première médiation des missionnaires, jésuites en particulier, des XVIIe, XVIIIe siècles, qui a été aussi la première mondialisation de Confucius et de ses entretiens. Et nous avons vu comment cette première médiation a installé de manière durable l'image d'un Confucius philosophe. Rappelez-vous donc le Confucius philosophus des jésuites. Et par extension, l'idée que toute la tradition intellectuelle chinoise devait être mesurée à l'aune de la discipline philosophique telle qu'elle s'est constituée professionnellement et institutionnellement dans le courant du XIXe siècle européen. Et on a vu que c'est dans ces termes que s'est posée la question de ce qui est à retenir et à sauvegarder de leur propre tradition pour les intellectuels chinois modernistes des premières décennies du XXe siècle, tels que Hu Shi et Feng Youlan, et que c'est encore dans ces mêmes termes que la question se pose au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, lorsqu'un philosophe européen, et même plus spécifiquement français, comme Maurice Merleau-Ponty, lorsque ce philosophe européen interroge la tradition intellectuelle chinoise en s'adressant à son homologue chinois, Feng Youlan. On a vu d'autre part que la première médiation des missionnaires jésuites a eu également des effets durables dans le domaine de la traduction des classiques confucéens et donc des entretiens de Confucius en particulier. Les traductions que nous pourrions appeler les traductions missionnaires, même si elles ne sont plus le monopole des jésuites, ni même celui des missionnaires catholiques après le XVIIIe siècle, continuent à se faire et à faire autorité jusqu'au début du XXe siècle. Certaines, on l'a vu la dernière fois, comme celle en anglais de James Legg ou en français du Legg français, donc Séraphin Couvreur, sont encore en circulation aujourd'hui, un siècle plus tard. Cependant, c'est précisément par le biais des traductions que l'on observe le passage de la première mondialisation qui s'est faite d'abord en latin à la seconde mondialisation qui se fait en anglais. Nous avons vu la dernière fois que la première traduction des entretiens qui ne soit pas due à un missionnaire et qui ait eu en même temps une large diffusion dans le grand public a été celle en anglais du sinologue britannique Arthur Whaley, sous le titre donc The Analects of Confucius, donc Analects étant donc la traduction du Lun Yu, donc en chinois, privilégié par les anglophones, dans le sens grec donc de recueil de morceaux choisis. Donc, je vous rappelle que cette traduction de Arthur Whaley est datée de 1938. Alors, bien qu'elle ait été suivie par des dizaines d'autres depuis, c'est cette traduction qui a joué un rôle prépondérant dans la perception de Confucius chez les intellectuels anglophones et en premier lieu américains de l'après-guerre. Ce que j'ai appelé le second moment de la mondialisation de Confucius ne concerne donc plus une diffusion réservée aux élites lettrées, c'est-à-dire celles qui avaient accès à la lingua franca des clercs, qui était le latin, mais une diffusion bien plus large qui est portée par la langue anglaise moderne et qui projette de Confucius une image beaucoup plus démocratisée, pour ainsi dire. C'est-à-dire que d'un Confucius philosophe et sage suprême, statufié et laissant tomber du haut de son piédestal des apophtegmes sentencieux et moralisateurs, on passe à un Confucius qui s'exprime dans une langue du quotidien, presque comme Monsieur Tout-le-Monde, et comme le disait si justement le poète américain que j'ai cité la dernière fois, donc Ezra Pound, en préambule à sa propre traduction de 1951, qui s'intitule Confucian Analects, selon Ezra Pound, la traduction doit viser à ressusciter et rendre présent the live man speaking, c'est-à-dire l'homme, le bonhomme vivant et parlant. Alors, d'autre part, cette mondialisation prend une dimension bien plus large que la première, qui se réduisait, elle, à l'échelle de l'Europe, puisque cette seconde mondialisation s'étend véritablement à l'échelle de la planète, grâce notamment à l'anglais, qui devient, comme vous le savez, comme nous ne le savons que trop bien, donc la nouvelle langue internationale portée avant tout par la suprématie donc de la superpuissance américaine à l'issue du deuxième conflit mondial. Alors, pour ce qui concerne notre propos, cette domination américaine se traduit en termes intellectuels par une emprise grandissante des relectures américaines de Confucius et de ses entretiens, donc à partir du milieu du siècle dernier. La première de ces relectures américaines d'après-guerre est celle de Hurley Glessner Creel, connu sous le nom, par ses initiales, on dit en général H.G. Creel, qui est né donc en 1905 à Chicago, où il a fait toute sa carrière universitaire jusqu'à sa mort en 1994. Et aujourd'hui encore, l'Université de Chicago comporte un des meilleurs départements américains de langue et civilisation de l'Asie orientale. Et je pense que l'empreinte de Creel a été tout à fait déterminante. Alors, comme beaucoup de ses collègues sinologues ou japonologues anglo-américains, Creel a mis ses compétences concernant l'Extrême-Orient et la zone Asie-Pacifique au service du renseignement militaire des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois avoir déjà insisté justement sur ce rapport très différent qu'entretiennent donc nos collègues américains par rapport à la Chine. Pour nous, la Chine, c'est encore un petit peu l'autre exotique. Pour les Américains, la Chine, notamment à partir du second conflit mondial, est devenue véritablement celui qu'on a en face, le partenaire, l'adversaire et ensuite le partenaire. Alors, H.G. Creel est l'auteur de nombreux ouvrages concernant l'histoire de la pensée et des institutions de la Chine ancienne et impériale, qui sont tout à fait recommandables et qui ont le mérite d'être fondées sur des recherches sinologiques solides et en même temps accessible au public élargi. Là aussi, nous avons un style qui, en tout cas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se démarque par rapport au style de la sinologie européenne et française en particulier. Là, nous avons quelque chose qui est capable justement de passer la rampe, si j'ose dire, pour atteindre donc un public élargi. Alors, l'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement est celui qui est consacré à la figure de Confucius et qui paraît donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage qui s'est d'abord intitulé Confucius, The Man and the Myth, c'est-à-dire donc Confucius, l'homme et le mythe, qui est paru en 1949 et qui a été aussitôt republié par un autre éditeur sous le titre Confucius and the Chinese Way, c'est-à-dire donc Confucius et la voie chinoise, donc Paris, paru toujours en 1949 à New York. Alors ce titre, Confucius et la voie chinoise, serait de nature à plaire tout à fait au, disons, discours officiel actuel en Chine, parce que c'est exactement ce qui est recherché donc par la propagande officielle actuelle. Et nous allons voir justement en fin de parcours comment justement ces relectures américaines, hein, certaines d'entre elles en tout cas, vont tout à fait dans le sens de ce qui est désiré actuellement en Chine. Alors ce livre délibérément grand public, publié aux États-Unis, donc dans le monde de l'après-guerre, manifeste la volonté de faire de Confucius le héros, dans le sens de annonciateur, d'un humanisme pacifiste. Alors, je cite Creel, qui dit ceci: The Confucians proclaimed men's duty to enlist in the struggle for peace, justice and humanity toward men. C'est-à-dire, les Confucéens proclamaient le devoir pour les hommes de s'engager dans le combat pour la paix, la justice et l'humanité envers les êtres humains. Et le portrait que dépeint Creel de Confucius en fait un humaniste quelque peu idéaliste et donquichotesque, et son groupe de disciples apparaît comme des précurseurs des chevaliers de la Table Ronde en quête du Saint Graal. Je cite Creel: This group of Knights of the Way, to borrow Arthur Whaley's felicitous phrase, was inspired by a measure of devotion not less than that later found in Christian chivalry. Ce groupe de chevaliers de la voie, pour reprendre l'heureuse formule d'Arthur Whaley, donc l'auteur de cette traduction de 1938, donc ce groupe était porté par un sens du dévouement non moins grand que celui qui devait plus tard caractériser la chevalerie chrétienne. Alors, quant aux idéaux politiques attribués à Confucius, ils rappellent, selon Creel, ceux d'une démocratie bienveillante. Creel parle d'ailleurs des « democratic sentiments of Confucius », c'est-à-dire des sentiments démocratiques de Confucius. Alors, je ne commente pas pour l'instant cette formule qui est évidemment très sujette à questionnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, selon Creel, donc, l'idéal politique confucéen se caractériserait ainsi par, donc, je cite, « the insistence that those who govern should be chosen not for their birth, but for their virtue and ability, and that the true end of government is the welfare and happiness of the people. » Le principe selon lequel ceux qui gouvernent devraient être choisis non pour leur naissance, mais pour leur vertu et leur capacité, et selon lequel le véritable objectif du gouvernement est le bien-être et le bonheur du peuple. Donc Confucius est ici explicitement désigné comme l'une des sources d'inspiration de la démocratie européenne des Lumières et même plus spécifiquement de la démocratie américaine. Là, je cite de nouveau Creel. Both in France and in England, the fact that China, under the impulsion of Confucianism, had long since virtually abolished hereditary aristocracy was used as a weapon in the attack on hereditary privilege. The philosophy of Confucius played a role of some importance in the development of democratic ideals in Europe and in the background of the French Revolution. Through French thought, it indirectly influenced the development of democracy in America. It is of interest that Thomas Jefferson proposed, as the keystone of the arch of our government, an educational system that shows remarkable similarities to the Chinese examination system. The extent to which Confucianism contributed to the development of Western democracy is often forgotten. Donc, tant en France qu'en Angleterre, le fait que la Chine, sous l'impulsion du confucianisme, avait depuis fort longtemps aboli l'aristocratie héréditaire, ce fait donc a été utilisé comme une arme pour s'attaquer aux privilèges héréditaires. La philosophie de Confucius a joué un rôle assez important dans le développement des idéaux démocratiques en Europe et dans le contexte de la Révolution française. Et à travers la pensée française, cette philosophie de Confucius a influencé indirectement le développement de la démocratie en Amérique. Il est intéressant de noter que Thomas Jefferson, donc l'un des auteurs donc, de la Constitution américaine, proposa en guise, et là Creel cite Jefferson, donc en guise de clé de voûte de l'arche de notre gouvernement, un système éducatif montrant des ressemblances frappantes avec le système des examens chinois. On oublie trop souvent à quel point le confucianisme a contribué au développement de la démocratie occidentale. Et donc, l'avant-dernier chapitre du livre de Creel, donc de Confucius and the Chinese Way, cet avant-dernier chapitre est intitulé donc Confucianism and Western Democracy, c'est-à-dire confucianisme et démocratie occidentale. Et donc l'intégralité de cet avant-dernier chapitre est consacrée donc à ce lien que Creel voit entre le confucianisme et la démocratie occidentale. Alors, d'entrée de jeu, Creel affirme ceci: The philosophy of enlightenment has some very remarkable similarities to Confucianism. Donc, la philosophie des Lumières présente des ressemblances remarquables avec le confucianisme. Et de poursuivre, since it developed during the 17th and 18th centuries, and this was precisely the period at which Confucianism came to be effectively known in Europe, it has inevitably been asked whether Chinese philosophy did not suggest some of these European ideas. Étant donné que cette philosophie des Lumières s'est développée au cours des 17e, 18e siècles, et que ce fut précisément le moment où le confucianisme devint effectivement connu en Europe, on s'est inévitablement posé la question de savoir si la philosophie chinoise n'avait pas inspiré certaines de ces idées européennes. Donc, à noter que, au rang de ces idées européennes, Creel semble considérer le principe méritocratique comme un principe démocratique. Donc, identification qui va, comme on va le voir, faire l'objet de discussions ultérieures et d'ailleurs toujours actuelles parmi les théoriciens de la politique anglo-américaine. Et c'est maintenant en train donc de gagner les élites chinoises, hein, ce questionnement, puisqu'il s'agit de se demander si le fait de placer le pouvoir politique entre les mains de quelques-uns choisis pour leur mérite et non pour leur rang ou pour leur naissance, est-ce que ce principe-là, méritocratique, est bien propice au fonctionnement démocratique, dans la mesure où il demeure un principe élitiste. Donc ça, c'est une question qui est encore d'actualité et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour l'instant, donc, ce qui nous intéresse, c'est ce livre de Creel qui constitue de toute évidence une lecture du Confucius des entretiens, qui est certes très américaine, par ses références aux Founding Fathers, c'est-à-dire aux pères fondateurs de la démocratie américaine, comme Thomas Jefferson, on vient de le voir, ou Benjamin Franklin, John Adams, etc. Mais c'est une lecture qui reste fortement inspirée, c'est de tout à fait évident pour nous, fortement inspirée par l'esprit des Lumières européennes. Or, les lectures américaines dont nous allons parler maintenant vont rompre assez nettement avec cette veine humaniste d'origine européenne pour se tourner assez résolument vers les ressources offertes par la tradition pragmatiste, spécifiquement américaine, qui, on l'a vu, a joué un rôle déterminant dans l'accès de grands intellectuels chinois à la philosophie occidentale dans la première moitié du XXe siècle. Je rappelais lors des semaines précédentes que Hu Shi et Feng Youlan, qui ont été actifs tous les deux dans la première moitié du siècle dernier, donc ces deux grands intellectuels chinois ont tous les deux été formés en doctorat à l'Université Columbia de New York par le philosophe pragmatiste américain John Dewey. Et ça, c'est donc, ça a été véritablement déterminant donc, pour disons, l'entrée de la Chine dans la modernité au XXe siècle. Alors, un titre qui a fait date au XXe siècle est celui du livre tout petit et tout mince. Alors, il s'agit de ce petit livre, vous voyez, hein, il fait à peine 80 pages imprimées très, très, très gros, et celui donc de Herbert Fingeret, qui s'intitule Confucius, the secular as sacred, c'est-à-dire le séculier comme sacré, qui est paru à New York en 1972. Alors, il existe une traduction en français depuis 2004 de cet ouvrage, le titre ayant été traduit par Confucius du profane au sacré. Alors, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord donc, avec cette traduction parce qu'elle ne rend pas exactement, je crois, le sens voulu par l'auteur, puisqu'il s'agit bien, non pas du profane, mais du séculier, et non pas, il ne s'agit pas de l'évolution donc, du profane vers le sacré, mais il s'agit bien du séculier en tant qu'il est à considérer comme sacré. The secular as sacred. Et je dois également signaler, donc, pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, une traduction en italien dont le titre n'est pas tout à fait exact non plus, qui s'intitule Confucio, il sacro nel secolare, et qui est paru donc à Vicenza en 2000. Alors, le sacré dans le séculier, c'est pas ça non plus. Je crois qu'il faut véritablement prendre ce titre de manière très littérale. C'est donc le séculier à considérer comme sacré. Alors, dès sa publication au début des années 1970, c'est-à-dire il y a 40 ans, ce petit livre, qui est dû à un philosophe professionnel qui n'avait aucune formation en sinologie, mais qui a été véritablement le premier philosophe à prendre le texte des entretiens au sérieux en tant que philosophe. Donc ce petit livre a eu un retentissement considérable et est resté une source d'inspiration pour tout un courant de sinologues philosophes américains dont je me propose de parler maintenant. Donc, d'après les références bibliographiques citées par Herbert Fingeret, donc, qui est né en 1910, on constate que celles qu'il a le plus utilisées sont donc les traductions anglaises des Analects par James Legg et par Arthur Whaley, ainsi que l'étude que je viens de citer de H.G. Creel, Confucius and the Chinese Way. Alors, Creel, qui a d'ailleurs, avec beaucoup de fair play, si j'ose dire, salué avec enthousiasme la contribution de Fingeret aux études sur Confucius, bien qu'elle aille dans un sens très très différent du sien. Alors, Herbert Fingeret, oui, là je m'aperçois que j'ai commis une erreur sur sa date de naissance, c'est pas 1910 mais 1921, donc a obtenu. Excusez-moi, là vraiment, c'est, je devais avoir la tête ailleurs. Donc, a obtenu son PhD en philosophie à UCLA, c'est-à-dire donc le University of California at Los Angeles, c'est-à-dire l'Université de Californie à Los Angeles, en 1949. Puis, il a enseigné la philosophie à Santa Barbara, toujours en Californie, jusqu'à sa retraite en 1990. Donc, le travail philosophique, donc là, là vous voyez un petit peu comment dire, la géographie intellectuelle américaine. Creel est du Midwest américain, alors que Fingeret, lui, est véritablement un Californien. Donc, c'est quelqu'un de la côte ouest. Donc, son travail philosophique se situe dans la tradition pragmatiste américaine et se concentre sur les questions liées au comportement humain, plutôt que sur des interrogations théoriques ou conceptuelles. Sa thèse de doctorat portait d'ailleurs sur la dimension philosophique de la thérapie psychanalytique et sur la manière de changer sa façon de vivre à partir d'une prise de conscience et d'une nouvelle compréhension de soi-même. Donc nous avons une approche qui est loin donc de l'approche conceptuelle, mais qui est une approche résolument donc ancrée dans le vécu. Alors, ces travaux ultérieurs sont restés ancrés donc dans la pratique psychanalytique et ont tourné beaucoup autour de la notion de responsabilité morale. Je vous cite certains de ces titres. Donc, vous avez The Self in Transformation, donc le soi en transformation, paru en 1963, suivi de On Responsibility, donc sur la responsabilité, paru en 67, et puis aussi un autre titre important qui s'intitule Self-Deception. Un titre assez difficile à traduire en français, c'est-à-dire self-deception, ça veut dire essayer de se duper soi-même, se mentir à soi-même ou se donner le change à soi-même, qui est paru en 69. On voit ainsi comment l'ouvrage sur Confucius, qui sera suivi de 5 articles importants sur le même sujet entre 76 et 91, donc l'intérêt de Fingeret, on voit comment il s'insère, c'est cet intérêt pour Confucius, comment il s'insère dans une réflexion sur l'acte moral, le choix moral, le sens de l'obligation, etc. Réflexion philosophique que Fingeret développera par la suite en intégrant une réflexion et des propositions sur les dispositions sociales et légales concernant les comportements criminels induits par les dépendances, ou nous dirions, nous emploierions un terme anglo-saxon maintenant, une addiction, notamment à l'alcool. Il a beaucoup travaillé donc sur ce qu'il appelle le heavy drinking, c'est-à-dire donc l'addiction à l'alcool, le boire à l'excès, et donc les conséquences morales et légales qui s'en suivent. Voyez donc qu'il ne s'agit pas d'un philosophe du tout voué à la spéculation abstraite, se découvre soudainement un intérêt pour Confucius. Et les premières phrases de sa préface à ce petit livre ont la force d'une conviction entière et d'un style très direct qu'il vaut la peine, à mon sens, d'entendre d'abord dans l'original anglais. Je m'en excuse auprès de ceux d'entre vous qui sont un petit peu allergiques à cette langue, qui est évidemment maintenant qui a, comment dire, des relents d'impérialisme mondialisé, mais là il s'agit quand même de la langue d'un philosophe, et donc je pense que c'est important de le citer d'abord dans la langue originale. Donc les premières phrases commencent comme ça. When I began to read Confucius, I found him to be a prosaic and parochial moralizer. His collected sayings, the Analects, seemed to me an archaic irrelevance. Later, and with increasing force, I found him a thinker with profound insight and with an imaginative vision of man equal in its grandeur to any I know. I have become convinced that Confucius can be a teacher to us today, a major teacher, not one who merely gives us a slightly exotic perspective on the ideas already current. He tells us things not being said elsewhere, things needing to be said. He has a new lesson to teach. Lorsque j'ai commencé à lire Confucius, j'ai trouvé que c'était un moralisateur prosaïque et borné. Le recueil de ses dires, les Analectes, m'a paru d'un archaïsme obsolète ou hors de propos. Ça, c'est en général la première impression qu'on a quand on lit les entretiens. Ça, c'est, je pense que c'est un peu l'expérience de tout le monde. Fingeret poursuit ainsi, par la suite, et avec une force de conviction grandissante, j'ai découvert en lui un penseur doté d'une profonde intelligence et d'une vision imaginative de l'homme dont la grandeur vaut bien toutes celles que je connais. J'ai acquis la conviction que Confucius peut être un maître pour nous aujourd'hui, un grand maître, qui ne soit pas là simplement pour nous fournir une perspective quelque peu exotique sur des idées déjà communes. Il nous dit des choses qui n'ont pas été dites ailleurs, des choses qui ont besoin d'être dites. Il a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Il a une nouvelle leçon à nous enseigner. Donc, Fingeret nous rappelle ensuite que les traductions des missionnaires, qu'ils soient catholiques ou protestants, nous ont habitués à considérer Confucius comme un autre Socrate, un philosophe ethnique ou païen, comme disaient les jésuites au XVIIe, XVIIIe siècle, à qui était dévolu le rôle de précurseur ou de préfiguration de l'éthique chrétienne. Alors, bien qu'il ne soit pas sinologue, Fingeret se montre aussi au fait de l'existence d'une tradition exégétique proprement chinoise qui s'est développée notamment sur les entretiens tout au long de l'histoire impériale et qui, surtout depuis un millénaire, s'est nourrie d'influences bouddhiques. On pense en particulier à l'exégèse de quelqu'un que j'ai nommé plusieurs fois ici, de Zhu Xi, prédominante à partir du XIIe siècle. Or, selon Fingeret, que les lectures soient d'inspiration chrétienne ou bouddhisante, elles sont inconsciemment marquées par un biais subjectiviste et psychologisant, ce qu'il appelle « the subjective psychologistic reading of the Annales ». Or, la lecture proposée par Fingeret n'est ni celle d'un missionnaire, ni celle d'un exégète ou d'un sinologue, c'est résolument celle d'un philosophe. Ultimately, dit-il, my interest is philosophical, and therefore, what counts for me is the philosophical insight in the chosen text when it is responsibly read. En dernière analyse, mon intérêt est d'ordre philosophique. En conséquence, ce qui compte pour moi est la compréhension philosophique dans un texte choisi, dès lors qu'il est lu de manière responsable. Et Fingeret de s'expliquer sur ce qu'il entend par lecture responsable. I believe one cannot completely divorce a responsible philosophical reading of such a text from careful historical and linguistic analysis. Donc, concernant un texte comme celui-ci, il parle donc des entretiens, je pense qu'on ne peut pas dissocier complètement une lecture philosophique responsable d'une minutieuse analyse historique et linguistique. Alors, Fingeret soulève là un problème considérable qui a été abordé de toutes les manières et sous tous les angles possibles, mais qui n'est toujours pas résolu de façon satisfaisante aujourd'hui, puisque comment, en effet, faire en sorte qu'une lecture philosophique qui peut tout à fait valoir par son originalité, comment faire qu'elle soit en même temps fondée sur une analyse textuelle, rigoureuse et attestée historiquement? Et nous allons voir que dans le cas des entretiens, c'est une question particulièrement épineuse et pourtant incontournable, car contrairement à ce que pouvait penser Fingeret au début des années 1970, l'histoire textuelle des entretiens se révèle actuellement toujours plus complexe et toujours plus sujette à controverse, avec à la clé des enjeux idéologiques et politiques de première importance dans le contexte du fameux retour de Confucius en Chine continentale, d'où nous sommes partis. Je laisse donc cette question de côté pour l'instant, à la fois parce qu'elle demande un traitement approfondi sur lequel nous allons revenir, et parce que les auteurs qui nous intéressent dans l'immédiat, ces auteurs américains donc, ne semblent pas la considérer comme un élément important dans leur lecture des entretiens, puisqu'ils partent du présupposé qu'on peut en gros lire les entretiens comme un texte plus ou moins cohérent et homogène. Alors, pour revenir au livre de Fingeret, que lisons-nous dès l'intitulé du premier chapitre? Alors, le premier chapitre s'intitule « Human Community as Holy Right ». la communauté humaine comme rite saint, S-A-I-N-T, ou rite sacré. Alors, j'espère que vous allez réagir comme moi, c'est-à-dire que presque chaque mot de cet intitulé a pour effet immédiat de hérisser nos sensibilités françaises de cartésiens doublés de jacobins. Donc, vous avez le mot communauté, le corps social considéré comme une communauté et en plus comme un rite sacré. Là, je dois dire que chacun de ces mots a le don de nous prendre véritablement à rebrousse-poil. Alors, bien sûr, Fingeret est bien conscient de prendre à contre-courant, ou donc je viens de le dire à rebrousse-poil, l'image consensuelle qui s'est installée depuis les Jésuites et les Lumières d'un Confucius séculier, humaniste et rationaliste, voire champion à la manière de Voltaire du combat contre l'obscurantisme religieux et contre les superstitions. Mais Fingeret est évidemment conscient de cela. Et parmi les tenants contemporains de cette représentation de Confucius, Fingeret cite entre autres Arthur Whaley et H.G. Creel, donc qui sont un petit peu justement les tenants de cet humanisme confucéen. Ainsi que, d'ailleurs c'est intéressant, dans une certaine mesure, Feng Yolan, que Fingeret cite comme aussi un humaniste chinois. Alors, tous ces noms maintenant vous sont un petit peu familiers, hein, donc Fingeret donc, prend tous ces gens-là donc, véritablement à contre-pied. Alors, Fingeret commence par rappeler les citations habituelles, hein, on pourrait dire les loci classici, des entretiens qui sont censés donc illustrer le rationalisme de Confucius. Nous allons voir donc ces citations qui reviendront sans doute dans notre propos ultérieurement, hein, dans d'autres contextes. Vous avez d'abord la citation du livre 6, section 22. C'est un dialogue donc entre un disciple de Confucius et le maître. Alors, Fan Shi Wen Zhi. Donc le disciple Fan Shi donc interroge le maître sur Zhi. C'est un terme qu'on connaît actuellement sous la traduction de connaissance, mais il s'agit donc ici plutôt d'une connaissance sapience ou d'une connaissance sagesse. Zi yue wu min zhi yi jing gui shen er yuan zhi ke wei zhi yi. Et le maître répond ceci, hein, vous avez donc cette formule canonique que vous commencez à connaître, donc le maître dit, et dans la je vous donne la traduction de Fingeret. Devote yourself to man's duties, respect spiritual beings, but keep distance. Alors, consacre-toi aux devoirs, aux obligations propres à l'homme ou propres à l'humain. Respecte les êtres spirituels, mais garde ta distance. Donc voilà comment Fingeret comprend donc cette phrase de Confucius, donc ou attribuée plus exactement à Confucius. Alors ce que je lis moi, c'est plutôt donc Wu Min Zhi Yi, c'est-à-dire donc comment dire, prends au sérieux donc l'obligation morale que tu dois donc aux Min, c'est-à-dire au peuple ou au reste des humains en général. Jing Gui Shen, c'est-à-dire donc honore ou vénère les kuei. Ce sont techniquement donc les manes des défunts, les manes des ancêtres défunts, hein, et les shen, c'est-à-dire donc les esprits ou les divinités, er yuan zhi. Alors là, c'est toujours l'ambiguïté de cette particule, et pourtant, et en même temps, hein, mais en même temps, hein, yuan zhi, c'est-à-dire garde-les à distance. Cela, hein, c'est ce que faire cela, c'est-à-dire de rendre ses devoirs à l'humain et vénérer les divinités tout en les maintenant à distance, hein, ça, c'est ce qu'on peut appeler donc la sagesse. Alors, la deuxième citation ou le locus classicus qu'on donne en général, hein, pour illustrer donc ce rationalisme attribué à Confucius, c'est cette citation très fameuse du livre 7 à la section 21. Zi bu yu guai li luan shen. Alors, Fingeret comprend donc the master never talked of prodigies, feats of strength, disorders or spirits. Donc là, Fingeret a la compréhension donc classique donc de ce. Il s'agit de cette seule phrase. Hein, toute la section 21. Donc vous avez ici des sections entières. Hein, donc vous voyez que ça peut être d'un laconisme extrême. Donc le maître ne pouille, c'est-à-dire ne parle pas. Hein, alors là, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles et imaginables. La compréhension classique, c'est de faire de ces quatre mots quatre notions différentes. Et c'est comme ça que le comprend donc Fingeret, c'est-à-dire donc quoi, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire, hein, c'est-à-dire on est dans le domaine de l'extraordinaire, très très littéralement, l'étrange, le surnaturel, li. C'est-à-dire donc ce qui relève de la violence ou de la force physique, loin, hein, le désordre ou le chaos. Là, vous connaissez peut-être justement le titre fameux du film de Kurosawa, ça n'a absolument rien à voir, mais j'en profite pour conseiller de voir ce magnifique film de Kurosawa, qui est une adaptation la plus belle que je connaisse du Roi Lear de Shakespeare. Donc, Luan, c'est donc le désordre, le chaos. Hein. Qui s'appelle Ran donc en japonais, et finalement Shen, hein, c'est donc ce Shen que nous venons de voir dans la citation précédente, à savoir donc les esprits, hein, ou les divinités. Donc le fait que le maître ne parle pas ou ne parlait jamais donc de tout ce qui sortait justement du domaine de l'humain, de l'ordre et de l'ici et maintenant, hein, c'est censé être une illustration donc du rationalisme de Confucius. Et enfin, vous avez donc ce passage du livre 11, section 12, où vous avez là aussi donc un dialogue entre un disciple de Confucius et le maître. Alors, Ji Lu Wen Shi Gui Shen. Ji Lu, c'est le disciple Zi Lu, hein, qui est un des disciples les plus fidèles et les plus proches de Confucius. Donc, Wen, donc il demande comment servir ces questions, c'est-à-dire les manes des défunts ou des ancêtres et les esprits, hein, autrement dit tout ce qui est du domaine de l'au-delà de l'humain. Alors le maître répond, Ziyue, Wei neng shi ren, yan neng shi gui. C'est-à-dire donc, là je vous donne donc la traduction de Fingeret. Until you're able to serve men, how can you serve spiritual beings? C'est-à-dire que lui comprend, tant que vous n'êtes pas capable de servir les hommes, comment pouvez-vous prétendre servir donc les êtres spirituels ou divins? Donc là, vous avez donc cette opposition donc du domaine de l'humain, hein, et du domaine de éventuellement ce qui a été humain mais qui ne l'est plus, hein, qui est sorti donc du domaine de l'humain. Ensuite, c'est le disciple qui reprend, hein, et qui pose une nouvelle question, yue kan wen si, c'est-à-dire donc le disciple prend une formule de politesse et dit j'ose, hein, vous demander ce qu'est donc ce. C'est-à-dire donc, alors là vous pouvez le comprendre comme la mort, hein, ou les morts. Et le maître répond yue, wei zhi sheng yan zhi si. C'est-à-dire donc, tant que l'on ne connaît pas la vie, hein, ou les vivants, hein, comment est-ce qu'on peut connaître la mort ou les morts, hein. Donc, Fingeret comprend ainsi donc, until you know about life, how can you know about death? Vous avez ces trois citations sur lesquelles je vais terminer, donc, et qui introduisent donc justement le propos de Fingeret, hein, qui, en dépit justement de toutes ces citations qui iraient dans le sens d'un certain rationalisme ou d'un certain scepticisme vis-à-vis donc de ce qui dépasse l'humain, Fingeret croit pouvoir percevoir par ailleurs dans les entretiens l'affirmation du pouvoir magique de certains modes d'action. Et alors il emploie justement ce mot magic, hein, ou magical, et il explique ce qu'il entend par là. By magic, hein, rassurez-vous, j'en ai bientôt fini. By magic I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. Et par magie, j'entends le pouvoir que possède une personne particulière d'accomplir sa volonté directement et sans effort à travers le rituel, la gestuelle et l'incantation. Et donc là, pour terminer, je voulais terminer justement sur en vous montrant donc la couverture de la couverture donc de ce petit livre auquel j'ai consacré donc la séance d'aujourd'hui, hein. Et comme vous voyez, vous avez le caractère chinois donc qui désigne justement le rite, hein, ou le rituel, hein. Alors c'est un caractère qui aller, comment dire, volontairement des marques d'usure, hein, puisqu'il a probablement été relevé sur une inscription estampée. Et là, je voulais la terminer par justement, par évoquer les manes de mon beau-père, donc le monsieur Wang Guozhong, qui est qui était un très grand calligraphe et qui a donc calligraphié ce même caractère Li, donc ce ce caractère qui désigne le rite, les rites ou le rituel, donc en chinois ancien. En vous remerciant de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.